Voici donc l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics, l'accent des autres comme d'habitude avec la radio-télévision suisse, RFI, France Inter, la RTBF et Radio-Canada. Et direction le Canada précisément pour commencer. Aujourd'hui, on va parler santé avec vous, Benoît Audet. Le gouvernement du Québec va bientôt abandonner une des dernières mesures de santé publique en lien avec la pandémie de COVID.
Oui, le port du masque qui deviendra facultatif à peu près partout à compter de la mi-mai.
La santé encore en Suisse, Pierre Anchoffat, avec un manque cruel de donneurs d'organes. Seuls 450 patients sont transplantés chaque année, alors qu'ils sont 1500 sur liste d'attente.
C'est pourquoi nous pourrions passer au consentement présumé, comme en France ou en Belgique, plus besoin de s'inscrire comme donneur de son vivant. Le peuple tranchera le 15 mai.
L'actualité politique en France, Karine Bécard, après 10 jours de discussion, les partis de gauche sont parvenus à un accord inédit, pour ne pas dire historique, pour affronter ensemble les législatives du mois prochain.
Effectivement, les Verts d'abord, les communistes ensuite, et pour finir, les socialistes ont, contre toute attente, rejoint l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Alors toute la question est de savoir si cela peut permettre à la gauche de l'emporter. Eh bien, historiquement, l'Union a toujours gagné.
En Belgique, Jacques Crémers, les enseignants sont à nouveau descendus dans la rue ce jeudi. Manifestation à Liège, cette fois pour réclamer de meilleures conditions de travail.
Oui, tous mécontents, ils étaient entre 10 et 15 000 pour dénoncer un quotidien toujours plus difficile, mais ils ont aussi vivement critiqué le projet de réforme de l'évaluation des aptitudes pédagogiques.
Enfin, leur naissance avait été une première mondiale. On va prendre des nouvelles des nonuplés maliens avec vous, Nicolas Sûr. 9 enfants nés au même moment, ils ont fêté mercredi leur premier anniversaire.
Oui, à Casablanca, où ils sont toujours avec leur maman et ils vont bien.
Voilà donc pour les titres de cette semaine. Bienvenue à vous dans l'accent des autres. C'était la mesure la plus visible et probablement la plus répandue depuis le début de la pandémie de Covid. Le port du masque s'est imposé peu à peu partout ou presque en Occident pendant cette pandémie. Et aujourd'hui, il est de moins en moins obligatoire. C'est le cas au Québec donc, où le masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des endroits publics. Benoît, ce sera à partir du 14 mai.
Oui, il ne demeurera obligatoire que dans les transports en commun et les établissements de santé dès la mi-mai. Le directeur national de la santé publique du Québec, Luc Boileau, estime que les indicateurs de l'évolution de la pandémie lui permettent de lâcher du lest. Il ajoute toutefois que le port du masque deviendra un choix personnel. Le docteur Boileau invite d'ailleurs les Québécois à respecter le choix de ceux qui vont décider de continuer à porter le masque. Selon un récent sondage, 62 % des Québécois ont déclaré qu'ils allaient continuer à porter le masque.
Oui, et en attendant, cette annonce des responsables de la santé publique a soulevé pas mal de réactions favorables.
Oui, chez les commerçants et les restaurateurs, entre autres, qui ont eu bien souvent à gérer la colère de certains clients opposés au port du masque, voici quelques-uns de leurs commentaires.
On avait hâte à ça, c'est une très bonne nouvelle en soi. Puis écoutez, les gens qui décideront de le porter, mais eux, ils seront les bienvenus.
Merci, mon Dieu. On est tellement contentes. Ça va être vraiment plus facile à travailler.
Le soulagement des commerçants, donc, le Québec qui devient, Benoît, la dernière juridiction canadienne à supprimer l'obligation de porter le masque.
Oui, à compter de la mi-mai, toutes les provinces canadiennes auront levé l'obligation de porter le masque dans les lieux publics. Cette mesure était en vigueur depuis juillet 2020 au Québec.
Voilà, la fin du masque obligatoire au Québec, donc à partir du 14 mai. Et puis le lendemain, le 15, la Suisse, cette fois, et toujours sur le terrain de la santé, la Suisse va se prononcer sur le don d'organes au centre de cette votation qui concerne donc la population. Pierre-Anne, il y a une question de consentement.
Exactement. La Suisse, comme l'Allemagne, connaît le consentement explicite, à savoir qu'une personne doit dire de son vivant si elle souhaite donner ses organes. Pour cela, il faut s'inscrire dans un registre ou porter une carte de donneur. Mais voilà, alors que sondage après sondage, la population affirme être favorable au don d'organes, eh bien le registre des donneurs reste famélique. D'où la volonté de passer au consentement présumé, comme dans la majorité des pays européens.
Voilà, c'est-à-dire inverser la logique. En clair, à moins d'avoir exprimé un refus de son vivant, on devient donc donneur.
Du moins un donneur présumé. En effet, le Parlement a maintenu un sérieux garde-fou, la consultation des proches en toutes circonstances, comme l'explique Anne-Laure Martin, chef de clinique à l'hôpital universitaire de Genève.
Les gens qui veulent pas y réfléchir et qui souhaitent pas y penser, ça va être comme actuellement, ça va être une tâche qui va être remise aux proches lors du décès. Et on sait que si on n'arrive pas à joindre les proches, on n'arrive pas savoir quelle était la volonté du défunt, les organes ne seront pas prélevés.
Car si ce geste altruiste n'a pas de sens pour le défunt selon sa famille, eh bien il n'en aura pas non plus pour les soignants selon Anne-Laure Martin.
Alors, est-ce que les autorités parviennent à rassurer avec de tels arguments?
Les sondages semblent indiquer que oui, la réforme a de bonnes chances de succès. Les adversaires dénoncent tout de même une instrumentalisation du corps et une forme de contrainte à défaut d'avoir su convaincre, à l'image du député UDC Jean-Luc Ador.
Ça doit rester un acte volontaire. On parle de don d'organes, mais on est en train de nous imposer un don alors que le don, comme son nom l'indique, devrait rester un acte volontaire. Tout est là.
Si le consentement présumé passe la rampe, Suisse Transplant espère que le taux qui plafonne à moins de 20 donneurs par million d'habitants se rapproche de celui de l'Espagne, qui est plus de deux fois plus élevé. Un espoir pour réduire la liste des 1500 patients en attente d'un organe en Suisse.
Et on notera à ce propos qu'en Belgique, Jacques, a priori, tout le monde est déjà présumé donneur potentiel d'un organe.
La loi belge est en effet basée sur le consentement implicite ou présumé, autrement dit, qui ne dit mot consent. Chacun a cependant le droit de s'y opposer ou de confirmer sa volonté d'être donneur. Comment ? Soit en informant ses proches, soit en s'enregistrant dans une base de données qui sera consultée avant tout prélèvement éventuel.
L'accent des autres.
L'accent des autres qui nous emmène à présent en France avec ce sacré tour de force pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi cette semaine à réunir la gauche et elle ne l'avait plus été depuis exactement 20 ans. Rien n'a été évident. D'ailleurs, plusieurs ténors du Parti Socialiste ont décidé de quitter le mouvement. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, par exemple. Mais la gauche unie partira bel et bien en position de force pour les législatives du mois prochain. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu union à gauche, en 36, en 81 et en 97, elle l'a emporté. On remonte le temps avec Anne Souhaitemont.
3 mai 36, le Front Populaire, composé de la SFIO, du Parti Radical et du Parti Communiste, remporte une victoire historique aux législatives. Léon Blum prend la tête d'un gouvernement qui mettra en place la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés.
Le gouvernement sait la difficulté de sa tâche. Il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal.
1972, la gauche se rassemble à nouveau autour d'un programme commun. 39 heures, retraite à 60 ans, grâce à un accord historique entre le socialiste François Mitterrand.
Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement.
Et le communiste Georges Marchais.
C'est un événement d'une très grande importance.
Rejoint ensuite par les radicaux, le programme commun permet le retour de la gauche au pouvoir en 80.
François Mitterrand est élu président de la République.
1997, après une dissolution surprise décidée par Jacques Chirac, coup de théâtre, la gauche plurielle remporte les législatives. Lionel Jospin devient Premier ministre de cohabitation d'un gouvernement composé de socialistes, de communistes et d'écologistes.
Le président de la République a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté.
Trois précédents d'union de la gauche qui ont débouché à chaque fois sur une victoire.
Anne Souhaitemont pour France Inter. En Belgique à présent, les profs sont à nouveau descendus dans la rue ce jeudi. Troisième manifestation depuis le début de l'année, cette fois à Liège. Les motifs de mécontentement sont multiples, à commencer, Jacques, par les conditions de travail quotidiennes.
Trop de réformes, trop de charges administratives, les professeurs se disent mis à toutes les sauces, devant faire plus et mieux avec la même chose, voire avec moins. Ils se déclarent sur les rotules, réclamant des moyens supplémentaires pour faire leur travail dans de bonnes conditions, des locaux adaptés, du matériel en suffisance et des tailles de classe conformes aux exigences pédagogiques.
Je donne cours en 5e et j'ai parfois 5e, 6e, avec 30 élèves, alors qu'on n'arrête pas de dire aux gens que c'est des classes de 20 élèves. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons.
Voilà, les enseignants qui réclament donc un meilleur quotidien, mais ils critiquent aussi, Jacques, le projet de réforme de l'évaluation des aptitudes pédagogiques.
Oui, cette évaluation, c'est en effet l'un des points qui fâchent les enseignants. Elle est pourtant inscrite dans le pacte d'excellence qui veut améliorer le niveau de l'école. Concrètement, il s'agirait d'un entretien mené par la direction avec, si nécessaire, sert un contrat de développement de compétences professionnelles, des objectifs à atteindre sous peine d'aboutir tout au bout de la procédure à une mention défavorable, voire une rupture de contrat. Face aux critiques des enseignants et aussi des directions qui redoutent un surplus de travail, la ministre Caroline Désir a accepté de reporter le dispositif d'un an.
Il y a une crainte que ce soit une évaluation avec uniquement pour but la sanction. Ça n'est vraiment pas ça que nous avons envie de porter comme message. Et donc on va prendre le temps d'expliquer ce projet.
Les enseignants ne seront donc pas évalués avant 2024. En attendant, ils réclament encore que la profession soit revalorisée. Le métier est vécu comme difficile et mal rémunéré. Il n'attire plus les jeunes ou pas suffisamment.
Enfin, ils ont eu un an mercredi dernier, les nonuplés, les bébés nationaux du Mali. 9 enfants d'une même grossesse étaient nés prématurément dans une clinique de Casablanca au Maroc. L'établissement avait pris en charge la maman, originaire de Tombouctou au Mali. Et un an après, Nicolas, tout le monde se porte bien.
Oui, après avoir passé pour certains plus de 3 mois en couveuse avec des moments de grande inquiétude pour leur survie, les nonuplés ont bien grandi. Ils découvrent à présent les joies de l'exploration à quatre pattes et certains tentent même leur premier pas. Pour les parents, la concentration doit être maximale. Le papa, Abdelkader Arbi.
Un enfant a toujours besoin d'aller de gauche à droite. C'est le moment le plus difficile. Quand il commence à bouger, il faut toujours être là.
Les enfants sont toujours au Maroc avec leur mère, épaulés au quotidien par l'équipe de la clinique privée à Inborja où elle avait accouché. Et pour la première fois, la famille a pu se retrouver au grand complet. La fille aînée du couple était restée à Tombouctou quand sa maman avait été transférée au Maroc. Âgée de 3 ans, elle a voyagé cette semaine en provenance du Mali avec son père et a rencontré pour la première fois ses 9 frères et sœurs.
C'était un moment de joie en même temps, de stress un tout petit peu pour elle. C'était très très beau.
Le père des nonuplés militaires de carrière prévoit de séjourner plusieurs semaines à Casablanca avant de retourner travailler au Mali et de préparer le retour de sa grande famille au pays.
Voilà donc pour l'anniversaire des nonuplés du Mali avec Nicolas Sûr pour RFI. Ce sera tout pour l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. L'accent des autres vous accompagne avec Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Merci à tous et à très bientôt, bien sûr, à la semaine prochaine si vous le souhaitez.